Je suis envoyée ici par mes parents pour y être religieuse. J'entre au couvent ce soir.
Mais ce n'est pas possible.
Hélas, si, monsieur. Que voulez-vous que fasse une fille seule contre la volonté de tous?
Comment vous appelez-vous?
Manon. Manon Lescaut.
Bonjour le Book Club. J'ai découvert Manon Lescaut au lycée et je me souviens en avoir gardé un très bon souvenir de lecture. J'ai adoré l'intrigue. Étrangement, je me souvenais pas trop du personnage de Manon Lescaut et c'est que récemment, depuis que l'épreuve est au bac et que je l'ai étudiée avec mes élèves, que je l'ai redécouvert.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Au programme du bac français cette année, dans le parcours Personnages en marge, plaisir du romanesque, on trouve Manon Lescaut. Ce roman composé par l'abbé Prévost au début de l'année 1731. Il est initialement pensé comme un des tomes de ses mémoires pour acquérir rapidement son autonomie et devenir le chef-d'œuvre de Prévost. La passion amoureuse y est puissamment tressée à celle de la narration et du récit, voire de la duperie. On a réuni deux spécialistes de cette œuvre pour donner le plus d'éléments possible à celles et ceux qui préparent l'épreuve du bac et pour les autres. Curiosité et plaisir de lire ou relire l'histoire de ce chevalier né, je cite, pour les courtes joies et les longues douleurs. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouverons Nicole Vulser qui explore pour nous l'aspect économique du monde des livres aujourd'hui, révolution et enjeux démocratiques du livre de poche et puis de la musique à la fin puisque Manon Lescaut a inspiré de grands opéras. Nous voilà ensemble pour une heure, c'est super. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Audrey Follot.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en littérature du XVIIIe siècle à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez, je crois, consacré votre thèse à l'abbé Prévost et plusieurs livres au roman Manon Lescaut. J'ai devant moi Manon Lescaut de Prévost ou Le Rivage Désiré, paru aux éditions Champion Commentaire. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission un peu spéciale. Bonjour Marc Stéphan.
Bonjour.
Vous êtes professeur de français au lycée Jean Rostand de Chantilly, dans l'Oise. Vous avez signé le dossier pédagogique pour l'édition Classico-Lycée Belin-Gallimard. Merci beaucoup à vous d'être ici pour cette émission un peu spéciale, donc je le racontais, c'est une émission qui a évidemment deux intérêts, on espère deux objectifs, à la fois celle de parler du texte de Manon Lescaut, de l'abbé Prévost pour tout le monde, et quand même de donner quelques billes à celles et ceux qui nous écoutent et qui préparent l'épreuve du bac. C'est à quoi comme forme cette épreuve-là? Qu'est-ce que ça peut prendre comme forme, la rencontre avec Manon Lescaut au moment de l'épreuve du bac de français?
Alors, le roman Manon Lescaut peut donner lieu tout d'abord à une dissertation pendant l'épreuve écrite, une dissertation donc de 4 heures. Le roman peut également être le support d'une explication de texte pour l'épreuve orale. Les élèves auront étudié 16 textes pendant l'année, dont 3 extraits de Manon Lescaut, s'ils ont étudié ce roman. Et il est possible que l'examinatrice ou l'examinateur leur propose d'expliquer pendant 10 minutes l'un des extraits du roman. Ils peuvent également, les candidates et candidats, choisir de présenter dans la seconde partie de l'épreuve Manon Lescaut. Ils ont à retenir une œuvre de leur choix et à justifier les raisons de ce choix en expliquant en effet que c'est une œuvre qui les a particulièrement intéressés.
Et là, c'est un moment plus libre de conversation entre l'examinateur et l'élève.
Voilà, c'est un moment qui est conçu tout d'abord comme étant une présentation des raisons du choix pendant 2 à 3 minutes. Et puis ensuite, l'examinatrice, l'examinateur entame un dialogue, un échange avec le candidat pour à la fois sonder ses connaissances, mais aussi vérifier qu'il y a une implication personnelle. Et c'est là que il est possible, en effet, de faire apparaître des préférences pour certains passages, par exemple, ou pour certains personnages.
Et de motiver son choix.
Il faut toujours argumenter, motiver, et éviter toujours de simplement raconter, et donc de dégager des arguments pour expliquer, en effet, que c'est un roman qui a particulièrement attiré l'attention.
Il faut engager sa sensibilité,
exactement,
comme on dit ici en préparant les émissions. Alors, sans préjuger de justement ce qui pourrait motiver la sensibilité, toucher ses élèves, de ce côté-là de la sphère, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt de proposer à des jeunes gens de cet âge-là de lire Manon Lescaut, de l'étudier? Qu'est-ce qui peut rencontrer leur intérêt?
Alors, la particularité du programme, c'est d'adosser aux œuvres au programme un parcours associé, qui est à la fois un thème, mais aussi un angle pour aborder l'œuvre. Et donc, le parcours associé à Manon Lescaut est formulé de la façon suivante: personnage en marge, plaisir du romanesque. Donc, ces notions.
Chic, moi j'ai trouvé ça chic.
C'est très élégant.
Quand même, au ministère, on se creuse la tête pour faire des belles
formulations. Ça demande justement de travailler ces différentes notions, de les envisager sous différents angles. Et on peut imaginer, par exemple, un candidat qui va souligner les différents types de plaisir plaisir qu'il a pu prendre en rappelant que Manon Lescaut, c'est un grand roman d'aventure avec des péripéties qui amènent même les amants de l'autre côté de l'Atlantique. On peut imaginer aussi que le candidat s'appuie sur la folle passion de Desgrieux et de Manon et sur la dimension parfaitement sentimentale et exacerbée du roman. Et puis peut-être certains candidats auront été attentifs au travail justement de la narration que l'abbé Prévost a mis en place à travers ce personnage de Desgrieux, très larmoyant, très encore sous le coup de l'émotion après avoir perdu Manon. Et c'est là qu'on rentre peut-être dans des subtilités littéraires un petit peu plus abouties.
Bon, en tout cas, ils ont mille autres raisons, on l'espère, d'aimer ce texte-là et on va essayer de leur en donner davantage. Est-ce que c'est intéressant, dans les connaissances qui sont mobilisées ce jour-là, Marc Stéphane, d'être à même de parler du contexte, de replacer le texte dans la bibliographie de l'auteur, éventuellement du contexte historique ?
Alors, ce roman qui a été publié au début du XVIIIe siècle entre véritablement en résonance avec le contexte. L'intrigue commence à la fin du règne de Louis XIV et s'achève sous la Régence. L'abbé Prévost lui-même ayant publié le roman sous la Régence. On est vraiment dans une période de transition, d'évolution des mœurs, où le règne de l'argent aussi prend de plus en plus d'importance et on le voit bien dans le roman. Donc je pense qu'il est important justement que les élèves aient bien conscience de la manière dont on vivait, de la question aussi des différents groupes sociaux qui peuvent se rencontrer ou se côtoyer.
Peut-être pour pouvoir affiner le côté
exactement,
personnage en marge, par
et
exemple.
De voir le caractère parfaitement scandaleux de cet amour du chevalier Desgrieux pour Manon Lescaut, une fille aux mœurs légères.
Audrey Follot, alors sur ce contexte, à la fois historique, celui dans lequel écrit l'abbé Prévost, celui que dépeint l'abbé Prévost, puis aussi la manière dont Manon Lescaut s'inscrit dans la bibliographie de l'abbé Prévost.
Oui, alors Manon Lescaut, Prévost l'a écrit au début de l'année 1731, qui se situe après la Régence pendant le règne de Louis XV. Cette période, elle est très importante pour comprendre l'histoire de Manon Lescaut, parce que c'est vraiment une période qui est marquée par l'essor des Lumières, donc ce grand mouvement culturel qui va consacrer l'autonomie de la raison, le bonheur comme finalité de l'existence. Et ça, on le retrouve dans Manon Lescaut, puisque c'est un livre qui a une dimension critique et aussi un livre dans lequel, en fait, les amants cherchent à être heureux et ne parviennent jamais à l'être parce que le bonheur est ici inaccessible. Mais en tout cas, ça s'insère vraiment dans cet ensemble de préoccupations des Lumières. Donc ça, c'est pour vraiment le contexte d'écriture. Et après, pour le contexte qui est représenté dans le livre, donc c'est effectivement, il y a le jalon très important et très symbolique de la mort de Louis XIV. Ça se passe de part et d'autre de l'année 1715. Qui est une grande période de resserrement du pouvoir, qu'on voit aussi beaucoup dans tous les lieux, toutes les prisons de Manon Lescaut, par exemple. Des scènes qui sont historiquement attestés comme les déportations massives de prostituées dans le Nouveau Monde, l'essor aussi du libertinage, avec tous ces personnages de libertins qui se succèdent dans le roman, GM, père et fils, etc. Et donc, où on va vraiment avoir ces éléments de contexte qui vont permettre de dépeindre une société, on le voit dans Manon Lescaut, dans laquelle l'argent prend de plus en plus de place, dans laquelle les valeurs aristocratiques sont largement bouleversées, parce que Desgrieux, c'est un aristocrate amoureux, mais son histoire le conduit à traverser des couches plus basses de la société. Donc ça va beaucoup se retrouver dans le roman.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut lire Manon Lescaut de Prévost comme étant un bon rendu ? Vous parliez d'une manière de dépeindre la société, mais une bonne façon d'avoir accès à l'histoire de cette période-là ?
Alors oui, mais disons que ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau de la formule romanesque de Prévost, parce que Prévost, il fait quelque chose d'assez novateur, qui est de prendre un thème sérieux, lyrique, la passion amoureuse, et de le traiter en le confrontant à des réalités sociales beaucoup plus basses, avec toute cette question de la prostitution, des jeux d'argent aussi, de l'hôpital général, qui est vraiment ce lieu où on met les exclus, les personnages en marge justement, et c'est le fait de prendre ce thème entre guillemets sérieux dans l'échelle des valeurs romanesques et de le confronter à ce contexte qui va vraiment produire une forme de discordance esthétique et particulièrement intéressante.
Vous le dites, il est composé au début de l'année 1731, ce livre-là. Et je le disais en introduction, moi j'avoue que au début j'avais du mal à tout replacer dans l'ordre. Présenté au départ comme étant un des tomes, le septième des Mémoires de Prévost. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos-là pour préciser et peut-être être en mesure de le faire le jour de l'épreuve du bac?
Oui, alors il y a ce grand roman fleuve, il y a beaucoup de romans de Prévost qui sont des romans fleuves, heureusement on ne les donne pas au bac, Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde, et en fait Prévost écrit l'histoire, donc le titre c'est Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, qu'il insère, enfin c'est pas vraiment insère, qu'il ajoute à ce grand roman.
Des Mémoires,
on va, c'est important parce qu'en fait ça touche la compréhension de l'œuvre, puisque le récit Manon Lescaut, on voit son enchâssement dans la rencontre entre Des Grieux et l'homme de qualité au tout début. L'homme de qualité, c'est justement ce narrateur cadre. Et bon, ça arrive souvent à l'époque, dans ces grands romans, d'avoir tous ces récits enchâssés. Ça va avoir un intérêt particulier pour Prévost, parce qu'on voit Des Grieux, donc ce second narrateur, en train de confier son histoire à un autre personnage, qui est donc son narrateur. Et donc, on peut observer aussi, en tant que lecteur, toutes les stratégies discursives, rhétoriques, qu'il va utiliser pour faire effet sur ce narrateur.
Oui, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'il y a vraiment l'intrication entre la passion amoureuse et la passion de dire, la passion de raconter, éventuellement de travestir son récit et d'observer les effets. Il y a presque l'idée aussi d'une manipulation possible, on y viendra, et du rôle et de la place de la Dupri. Est-ce qu'on peut dire un mot pour terminer la grande présentation de l'œuvre, Audrey Follot, sur la réception à l'époque? Qu'est-ce que ça fait de lire Manon Lescaut ou de voir publier Manon Lescaut dans la première moitié du XVIIIe?
Alors, la réception de Manon Lescaut, par exemple par Montesquieu dans ses Pensées, c'est vraiment de souligner ce qui est étonnant pour les lecteurs et les lectrices de l'époque, à savoir, je cite, le personnage de Manon est une catin, une prostituée, et pourtant,
elle aime.
Et voilà, elle aime et on l'aime.
Mmh.
Exactement, on éprouve Des Grieux, pareil, c'est un menteur, un tricheur, etc. Et pourtant, d'une certaine façon, on l'aime et lui aussi, il aime. Et donc, de souligner en fait c'est censé être incompatible et pourtant Prévost le fait. Ça, c'est aussi.
C'est une surprise, cette empathie possible avec des personnages qui pourraient, pour des raisons ou pour une autre, plutôt attirer la critique ou le rejet.
Tout à fait, c'est vraiment un coup de force de l'abbé Prévost d'avoir rendu ses personnages en marge d'une certaine façon héroïque. Les prostituées, il y en a depuis longtemps dans le roman, mais elles sont pas traitées comme des sujets d'amour sérieux. Voilà, donc il y a quelque chose de nouveau qui se joue ici.
Ça aussi, c'est intéressant de pouvoir en faire mention dans l'oral ou dans sa dissertation, Marc Stéphan, la réception, le moment où le texte est publié, éventuellement pouvoir citer Montesquieu à propos du personnage de Manon Lescaut.
Alors, il est toujours intéressant justement de bien avoir en tête qu'on ne sommes pas les premiers lecteurs du roman et qu'avant nous, d'autres lecteurs aussi se sont risqués sur à lire ces pages et à s'émouvoir devant ce récit. On peut penser à Flaubert qui a dit de ce roman que c'était un grand cri du cœur. Beaucoup également de lecteurs antérieurs et même les plus grands se sont laissés justement prendre par cette passion et par aussi peut-être cette tromperie de la part de Des Grieux qui arrive à nous faire croire que son histoire finalement de fils de famille dévoyé avec une jeune fille que ses parents veulent éloigner du monde parce que déjà un petit peu trop au fait des choses de la vie, est en fait une des plus grandes histoires d'amour et presque l'égale de Tristan et Iseult ou de Roméo et Juliette et pourquoi pas également plus tard de Paul et Virginie ou René et Atala. Voilà, c'est intéressant aussi de voir que tout le mythe de Manon Lescaut a été construit finalement lecture après lecture. Et ça, c'est extrêmement intéressant de faire découvrir ça aux élèves.
Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter dans ce premier moment de présentation de Manon Lescaut de Prévost? Alors, on a parlé des raisons qui font qu'on est, en tant qu'élève, touché par le texte. On a parlé de la présentation, du contexte d'écriture, du contexte dépeint, 1715, de la réception, de l'inscription du texte dans la bibliographie de Prévost. Est-ce qu'on est bon pour une grande introduction? Ou est-ce qu'il nous manque quelque chose?
Peut-être un mot sur le jugement moral que des élèves sont... veux dire, font inévitablement. Ah, c'est vrai, on aime Manon, on aime Desgrieux, mais on les juge aussi. On les juge à l'aune de ce que Desgrieux veut bien nous raconter.
Ça fait partie du plaisir romanesque, peut-être même, d'ailleurs.
Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que les élèves, dans les classes, il peut y avoir des débats sur le comportement des uns et des autres dans ce roman.
Audrey Fleurot. Oui, ça s'est programmé dès l'avis donc de l'auteur, ouais, mais qu'en fait c'est pas Prévost l'auteur, c'est ce fameux homme de qualité, mais derrière lequel se cache un peu Prévost, où il dit j'ai à peindre un jeune aveugle, etc. Donc question du jugement moral, mais je crois pour les élèves, ce qui serait intéressant, c'est de l'envisager sous un angle vraiment philosophique, parce qu'il y a toute une réflexion sur la passion. Est-ce que la passion abolit la liberté? Et plutôt, voilà, faire émerger ces questions-là que de rester dans une condamnation ou non. Exactement. Des personnages.
Dépasser le jugement superficiel et les amener justement à construire une réflexion philosophique à partir du roman.
On va aller dans le cœur du roman avec le texte désormais, juste après ça.
Song about a bad girl, something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. If I had a head of my own, I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. Said, son, this woman will break your heart. She'll put you down. That's when I told Mama these words.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Les passions seules forment la trame d'une vie qu'elles contribuent littéralement à écrire. Ce sont vos mots, Audrey Follot, pour parler de ce roman du XVIIIe siècle, Manon Lescaut, écrit par l'abbé Prévost et qui est au programme du bac français cette année. On vous propose une nouvelle émission dans cette série qui, elle, se propose de réviser le bac en écoutant le Book Club de France Culture. Après avoir rappelé le contexte, la place qu'occupe Manon Lescaut dans l'œuvre de Prévost, entrons désormais dans la matière du livre. On l'a évoqué un petit peu avec vous deux, Audrey Follot et Marc Stéphane. On a parlé de récits enchâssés, de structure du roman. Peut-être on reprend un petit peu les choses pour les détailler. On a parlé aussi d'un mystérieux avis de l'auteur et d'un jeu de miroir. Comment parler de cette façon d'encastrer les paroles, Audrey Follot?
Alors en fait, Prévost, il va vraiment développer dans toute sa carrière romanesque, parce qu'il n'en a pas écrit qu'un seul, une forme littéraire, une forme romanesque un peu nouvelle, que la critique va appeler a posteriori le roman mémoire, qui apparaît déjà à la fin du XVIIe siècle avec Madame de Villedieu. Mais à partir des années 1730, des années de Prévost, il va y avoir une floraison de romans mémoire. Alors un roman mémoire, c'est un roman qui prend la forme de mémoire. Donc c'est le personnage après les aventures qui revient pour raconter à la première personne ce qu'il a vécu. Et là, c'est ce qui se passe. Alors, à partir notamment de la rencontre de Calais, là, quand il rencontre l'homme de qualité pour la deuxième fois, Desgrieux va vraiment dérouler tout son récit. Et ça, c'est une forme qui est très intéressante. On en reparlera, mais il y a tout le jeu autour de la première personne. C'est le point de vue d'un personnage narrateur sur ce qu'il a vécu, lui. Il y a tout le jeu aussi de la rétrospection, parce que ce sont des événements dont il connaît la fin. Et d'ailleurs, on le voit bien quand il rencontre Manon, il dit que ça va mal se passer, donc on le sait déjà.
En fait, pour bien comprendre, on apprend l'histoire et les histoires parce que Desgrieux raconte cette histoire à quelqu'un et à chaque fois à des personnes différentes. C'est comme ça que nous avons accès. Ce n'est pas Desgrieux qui nous le raconte directement à nous-mêmes.
Non, il raconte l'histoire à l'homme de qualité, qui est le premier narrateur et qui devient son narrateur, c'est-à-dire celui auquel le narrateur confie le récit. Mais en fait, derrière la figure de l'homme de qualité, il y a aussi le lecteur. Enfin, il y a un jeu de mise en abîme assez intéressant. Et en tout cas, voilà, on voit véritablement le personnage raconter sa vie vécue, enfin une partie de sa vie vécue.
Il y a une question qui se pose d'emblée, justement, sur cette première personne et sur la fiabilité des récits, sur le jeu que l'on peut décrire et peut-être auquel s'amuse Prévost. C'est
quelle confiance on peut faire au sentiment du narrateur et du narrateur, quelle confiance on peut faire à la manière dont il relate les faits. À ce propos, Marc Stéphan.
Oui, justement, Desgrieux raconte cette histoire au marquis de Renoncourt très peu de temps après avoir vécu ce drame avec Manon Lescaut. Il l'a perdu il y a quelques mois et il est encore véritablement sous le coup de l'émotion. Il est dans une situation toute particulière. Il vient de perdre son père, il revient en France après avoir passé plusieurs mois de l'autre côté de l'Atlantique, dans les colonies françaises en Louisiane. Et sous le coup de l'émotion, justement, il souhaite attendrir Renoncourt. Et il est, on peut peut-être le penser, hein, pris entre deux situations. Admettre que finalement son histoire a été terrible pour lui et qu'il a fauté. Et dans un second temps, concevoir pour Manon une passion éternelle. Et par moments dans son récit, on a le sentiment qu'il fait amende honorable, qu'il reconnaît ses fautes. Et puis par son attitude, son comportement ou certaines phrases, on comprend bien qu'il aime toujours Manon et que si c'était à refaire, il agirait sans doute exactement de la même façon. Donc nous ne sommes pas face à un pécheur qui fait repentance, loin de là, même si parfois il essaye de nous en donner l'impression.
Vous dites, Audrey Follot, dans votre essai Le rivage désiré, qu'il y a des écueils à éviter lorsqu'on critique justement la position du narrateur ou du narrateur. Quels sont ces écueils-là? Parce qu'on ne peut pas non plus complètement condamner la posture de narration. Il faut nuancer cette, entre guillemets, cette méfiance de lectrice et de lecteur.
Oui, alors en fait, ça tient sur une ligne de crête, mais qui est difficile à tenir. C'est aussi l'intérêt de commenter Manon Lescaut pour des élèves qui passent le bac. Parce qu'il y a d'un côté, comme le disait Marc Stéphan, ce roman d'amour avec, qui a vraiment une puissance lyrique et tragique très forte, parce que le personnage envisage son histoire comme cette ça. Façon. Et de l'autre côté, tout un ensemble d'indices critiques qui vont amener le lecteur un petit peu se distancier, parce qu'on voit en fait la fabrique du récit. On voit Desgrieux essayer d'émouvoir Tiberge en disant « je lui présentais ma passion comme un coup du sort, etc. etc. » Et en fait, l'intérêt de Manon Lescaut...
Comme s'il maîtrisait les outils de son propre récit et, de, voilà. et des effets qu'il a sur son auditoire.
Oui, et ça, c'est une petite alerte au lecteur pour dire « attention, ne te laisse pas prendre complètement par l'empathie. » Mais en fait, cette lecture, il ne faut pas l'outrer en faisant de Desgrieux un cynique, manipulateur. Elle n'annule pas la première lecture, la lecture lyrique, mais elle se combine. Et en fait, à l'époque de Prévost, il y a toute une préoccupation des écrivains et des écrivaines pour comment construire un récit émouvant sans pour autant être la dupe de cette émotion. Et donc, c'est pour ça qu'on va apprendre au lecteur à voir un peu plus loin, à vraiment à apprendre à lire par ce dispositif.
Mais vous disiez aussi que c'était l'occasion pour les élèves et pour nous-mêmes, lectrices et lecteurs, d'avoir des pensées philosophiques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que se tresse la passion amoureuse et la passion de la dire, très manifestement dans Manon Lescaut, c'est que la possibilité de raconter cet amour et de voir ce que ça produit sur lui, sur son corps et sur son auditoire, est une passion qui se superpose à la passion qu'il a eue pour cette jeune femme.
Exactement, d'autant plus que Desgrieux nous donne des informations sur sa future carrière et dit qu'il
veut écrire.
Il veut écrire et même il veut écrire un commentaire amoureux, donc on le voit arriver.
Oui. Il est déjà en train de se dire que probablement ça aura du succès et que ce sera assez incroyable de voir la réaction des gens lorsqu'il publiera son livre.
Oui, et que ce sera émouvant, parce que c'est quelqu'un qui veut émouvoir.
On a parlé d'une histoire d'amour. Dans une histoire d'amour, il y a une rencontre. Premier extrait de Manon Lescaut.
J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquais-je un jour plus tôt? J'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami, qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras, et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammée tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter. Mais loin d'être arrêtée alors par cette faiblesse, je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairée depuis un moment qu'il était dans mon cœur que je regardais ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlai d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens.
Pas mal de choses déjà présentes dans cette scène de rencontre Manon Lescaut de Prévost. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Marc-Stéphane ?
Je pense que la première piste, en tout cas ce qu'il faut absolument montrer, c'est que Desgrieux présente cette rencontre comme étant l'événement qui va bouleverser sa vie. Il l'écrit a posteriori et il porte un regard rétrospectif et... On voit bien qu'il cherche à montrer la puissance de l'amour qui est en train de naître ici.
Comme pour d'emblée réduire sa responsabilité, ça m'est tombé dessus.
Exactement,
c'était trop fort.
Exactement. Et on voit bien dès le début, hein, il semble regretter de ne pas être parti un jour plus tôt et pour avoir évité de croiser le regard.
Père m'aurait trouvé tout innocent encore.
De Manon Lescaut, sa vie aurait été différente et il serait revenu en effet chez son père encore pur et parfaitement ingénu. Donc finalement il se défausse Desgrieux dès le début et on le voit aussi extrêmement malheureux par cette prolepse finale, si on regarde le début du texte et puis la fin du texte, on voit la prolepse finale par laquelle il anticipe ce qui va arriver, hein, tous ses malheurs et les miens. C'est un moyen aussi de donner envie à son auditoire, à
Renaud l'un des plaisirs romanesques étant de savoir...
De connaître la suite.
Voilà, c'est-à-dire que manifestement, ça ne va pas bien se terminer, mais comment ça ne va pas bien se terminer ?
Là, c'est un artifice de Desgrieux vis-à-vis de Renoncourt, mais aussi, plus largement, par un jeu de mise en abîme, comme Audrey Follot en parlait, de l'auteur vis-à-vis de nous, lecteurs. Et ce qui est important de voir aussi dans ce texte, c'est la manière dont il crée le contraste. Donc il crée l'opposition entre ce qu'il était avant, et ce passage d'ailleurs suit un portrait qu'il fait de lui-même, un portrait parfaitement élogieux dans lequel il se voit justement comme un jeune homme bien élevé, moralement irréprochable. Et puis on le voit qui succombe à la passion très très rapidement, et on a tous les codes de la rencontre amoureuse qui se met en place, c'est-à-dire que dans un cadre tout à fait quotidien apparaît ce qui est exceptionnel, c'est la présence de Manon Lescaut.
Et l'immédiateté.
Il est sidéré, c'est la sidération hein, par la vue de Manon et le silence qui est le sien. Et tout disparaît autour de lui. C'est qu'on voit bien au début du texte, il emploie justement un « nous » qui inclut lui et puis Tiberge. Et puis Tiberge qui l'accompagne, cet ami fidèle, disparaît complètement du paysage. Son attention se concentre exclusivement sur Manon Lescaut, dont il nous dit finalement très peu de choses. Parce que sur le moment, il ne connaît pas son nom, il ne sait pas d'où elle vient, il ne lui a pas encore parlé. Mais aussi, même rétrospectivement, pour créer justement déjà cet effet de mystère autour du personnage, mystère qui va suivre le personnage tout du long, parce que de Manon, nous n'aurons jamais véritablement de description physique.
D'aucuns disent même que c'est la figure de l'absente et qu'on a beau avoir donné le titre Manon Lescaut à ce livre-là, elle règne presque par son mystère et par son absence et par son évanescence. Audrey Follot, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette scène de rencontre? Son écriture, sa construction.
Oui, alors je crois que pour des élèves, ça peut être intéressant de regarder la gravure, qui sont des gravures ajoutées dans l'édition de 1753, donc du vivant de Prévost, et au moment où Prévost augmente son roman, donc vraiment elles sont entre guillemets validées par l'auteur. Et ce qu'il y a de très intéressant dans cette gravure, c'est qu'on retrouve effectivement le topos de la première rencontre, et leurs yeux se rencontrèrent. Mais en même temps, on voit à l'arrière-plan que cette rencontre amoureuse, elle a lieu là où s'arrêtent les voitures, voilà, le coche d'Arras le coche d'Amiens, pardon. Et en fait, on retrouve cette
cette friction entre ce dont je parlais auparavant, entre la grande scène de roman d'amour, mais qui a lieu dans ce qui serait l'équivalent pour nous d'un hall de gare, quoi, ou d'un lieu très prosaïque. Il y a ça. Il y a aussi...
On voit les chevaux, on voit les marchands, on voit les paquets. Il y a plusieurs plans à cette scène-là sur la gravure. Et plus on avance dans le plan de l'image en profondeur, plus on peut dire qu'on descend dans les bas-fonds de la société. Donc il y a vraiment l'idée que ce grand sujet littéraire et philosophique dont vous parliez de la passion amoureuse est déménagé dans un endroit où on pourrait imaginer, heureusement que non, qu'il n'y a pas de transport aussi puissant, aussi noble.
Tout à fait. Et en fait, ça permet à Prévost de faire intervenir dans cette grande scène de passion des éléments de réel qui paraissent au second plan, mais qui vont devenir très importants, notamment quand il dit que Manon, elle est envoyée au couvent parce qu'elle avait fait preuve d'un penchant au plaisir, etc. Ce qu'on comprend, c'est que c'est aussi la punition traditionnelle d'une jeune fille qui a découvert la sexualité, alors que lui, Desgrieux, la découvre en portant son regard sur Manon. Et c'est une grande scène d'émoi affectif et sexuel aussi, cette première rencontre. Et ça s'inscrit dans l'idée que Manon Lescaut, c'est aussi un grand récit d'adolescence, entre ce moment avant la rencontre avec Manon, il y a l'enfance. Pendant les aventures avec Manon, c'est vraiment l'adolescence, on se rebelle contre les parents, on poursuit sa voie. Et à la fin, Desgrieux, il revient chez son père qui est mort et il vient occuper la place qu'il aurait dû occuper. Et ça, c'est l'âge adulte.
Oui, il rentre dans l'ordre après tous les tumultes de la vie avec Manon. Quelle place tient la chair, l'acte sexuel, le désir sexuel, le corps, la prostitution dans le roman Manon Lescaut ?
Une place centrale parce que, par exemple, les amants vont consommer leur première aventure dans les pages qui suivent. Il y a toute cette question de la prostitution en filigrane. On en parlera sans doute dans le deuxième texte avec Manon qui dit « Moi, je t'aime, mais je me prostitue » parce que c'est deux choses différentes. Et Desgrieux, avec son regard aristocratique, qui dit « On ne peut pas aimer et se prostituer ». Donc, avec vraiment... c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de libertins, voilà, les GM, et où on déporte les prostituées qui pourtant occupent une place centrale dans la société. Les courtisanes, elles sont partout, elles sont extrêmement importantes. Le roi lui-même
mais a des favorites. Cachez-moi cette courtisane que je ne
saurais pas. Exactement, il y a une dénonciation aussi de l'hypocrisie de la société. Mmh. Voilà, il y a vraiment beaucoup de personnages d'hypocrites dans cette société.
Et est-ce que ça fait de Manon Lescaut un personnage qui viendrait contrer cette hypocrisie, un personnage de la vérité, puisque c'est aussi celle qui apparaît, la passion qui aurait à voir aussi avec la révélation d'un être profond, d'un être nouveau?
Manon Lescaut, elle a une très grande liberté d'action, de parole. C'est celle qui ne s'embarrasse de rien, finalement. Et dans cet extrait, elle n'est pas gênée par le compliment que lui fait Desgrieux. Elle paraît finalement assez spontanée, assez naturelle. Et ses désirs, elle l'entend bien les vivre sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit. Et on s'aperçoit de l'hypocrisie sociale dans la mesure où, on l'a dit, ce sont les femmes, les prostituées qui sont déportées. Et ce sont, on va dire, des hommes qui, au nom de la morale, après avoir eux-mêmes
profité
des prostituées, vont en effet les déporter. Donc on voit bien aussi cette inégalité dans le traitement et justement cette place du patriarcat qui est extrêmement forte encore dans ce roman et qui s'exprime à travers tous les personnages masculins qui sont le plus souvent des adultes et qui exercent sur le corps des jeunes femmes une force qui est très clairement mise en évidence par l'abbé Prévost.
Et alors si on fait un truc complètement anachronique, ça voudrait dire que Prévost produit là une critique du patriarcat avec la distance qu'il nous propose d'avoir sur cette hypocrisie, sur cette ironie du sort ?
Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, si on n'aurait pas une forme d'anachronisme même dans la manière d'envisager justement cette interrogation. Mais en tout cas...
Il nous demande de n'être pas dupes, en tout cas.
De n'être pas dupes et d'envisager aussi, de poser la question du bonheur selon des termes qui ne sont pas, on va dire déjà, qui ne sont pas fallacieux. Voilà, c'est-à-dire qu'il remet en cause même la question de, peut-être même de la morale religieuse. dans cette capacité justement à ouvrir la voie au bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin vers le bonheur que de suivre les préceptes de l'Église? Et Thiberge est bien malmené, lui qui défend cette morale religieuse dans le roman justement.
L'ami de Desgrieux.
Exactement.
Un instant sur le sous-titre très beau que vous choisissez, Audrey Follot, à votre livre « Rivage désiré ». En effet, vous développez beaucoup dans ce petit essai l'idée, une sorte de dichotomie entre la poursuite du bonheur et le vécu des passions, en ne faisant pas une séparation trop évidente entre les deux. Il y a quelque chose de plus subtil. La ligne de crête dont vous parliez tout à l'heure, c'est celle-ci?
Oui, sur le contexte, sur l'histoire des idées, c'est intéressant aussi parce qu'avec Prévost, on est en train de transiter de toute une culture qui critique les passions, hein, passion, la souffrance, l'état violent qui s'empare d'un sujet.
Il faudrait s'en éloigner.
Voilà. Et en même temps, on transite vers les lumières qui vont beaucoup réhabiliter les passions. Voilà, Émilie du Châtelet le dit, les passions sont bonnes et si on devait demander quelque chose à Dieu, il faudrait lui demander des passions. Et là, on voit ce moment un peu de transition parce que les passions dans Manon Lescaut sont source de souffrance. Voilà, l'amour vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, etc. Mais en même temps, et ça, Marc Stéphan l'a rappelé, c'est la confrontation qui a lieu à Saint-Lazare entre Desgrieux et Thiberge, où le contenu de Desgrieux, on pourrait le résumer de la façon suivante, c'est le bonheur de la morale et de la vertu que tu agites devant moi, c'est un bonheur vain, assez fumeux par rapport au plaisir que je peux rechercher. Et donc, il y a cette idée que les passions nous rendent malheureux, mais vivre sans les passions, ça rend aussi tout aussi malheureux.
On disait qu'on n'avait pas trop entendu la voix de Manon dans cette première scène de la rencontre. En réalité, il est difficile de l'entendre souvent, la voix de Manon dans Manon Lescaut. On a choisi un extrait où on entend ces mots, tout du moins, c'est la lettre.
Je me promenais à grands pas dans nos appartements. J'aperçus, dans celui de Manon, une lettre cachetée qui était sur sa table. L'adresse était à moi et l'écriture de sa main. Je l'ouvris avec un frisson mortel. Elle était dans ces termes. « Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. Crois-tu qu'on puisse être bien tendre lorsqu'on manque de pain ? La faim me causerait quelques méprises fatales. Je rendrais quelques jours le dernier soupir en croyant en pousser un d'amour. Je t'adore, compte là-dessus, mais laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune. Malheur à qui va tomber dans mes filets. Je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux. Mon frère t'apprendra des nouvelles de ta Manon et qu'elle a pleuré de la nécessité de te quitter. Je demeurerai, après cette lecture, dans un état qui me serait difficile à décrire, car j'ignore encore aujourd'hui par quelle espèce de sentiment je fus alors agitée. Ce fut une de ces situations uniques auxquelles on n'a rien éprouvé qui soit semblable. On ne saurait les expliquer aux autres, parce qu'ils n'en ont pas l'idée. Et l'on a peine à se les bien démêler à soi-même, parce qu'étant seul de leur espèce, cela ne se lie à rien dans la mémoire, et ne peut même être rapproché d'aucun sentiment connu.
Le narrateur qui lui-même a difficulté à mettre des mots sur ce qu'il ressent lorsqu'il lit la lettre de Manon. Donc on va faire en deux temps, si vous voulez bien, Marc Stéphan et Audrey Follot. D'abord, le contenu de la lettre de Manon et ensuite ce que ça fait à Desgrieux de lire cette lettre-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette lettre que l'on pourrait commenter ? Audrey Follot.
Alors, c'est une lettre très intéressante parce que, comme vous le signalez, c'est un des rares moments où on entend vraiment parler Manon avec aussi un travail stylistique autour d'une parole qui va être différente de celle de Desgrieux, plus simple, plus brute aussi, un malheur à qui va tomber dans mes filets. Donc, on l'entend vraiment parler.
Et là, on peut avoir une petite astérix personnage en marge et revenir à l'un des axes de lecture de Manon Lescaut.
Exactement. Et puis surtout, cette lettre, elle est très intéressante parce qu'elle fait apparaître des choses sur lesquelles on s'interroge beaucoup aujourd'hui, à savoir les rapports de genre et les rapports de classe, puisqu'en fait, c'est la lettre d'une femme et plus après, on a la réception de cette lettre par un narrateur homme et on a aussi la lettre d'une femme du peuple
telle qu'elle est reçue par un aristocrate. Et en fait, ce texte montre l'incompatibilité des visions entre Manon Lescaut, donc, qui lui dit « je t'aime ». Mais est-ce qu'on peut aimer lorsqu'on manque de pain ? Donc, il fait revenir au premier plan vraiment les réalités sociales, les réalités qui tiennent aussi à son appartenance sociale. Manon, elle connaît la pauvreté. Et Desgrieux, lui, on voit dans toute la suite, qui va développer au contraire une vision aristocratique de l'amour, une vision très idéalisée de l'amour. Je cite « Elle appréhende la fin, Dieu d'amour, quelle grossièreté de sentiment, et que c'est répondre mal à ma délicatesse, etc. »
C'est trop bas pour lui, quoi, d'un seul coup.
Exactement, et ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les marques d'ironie. Alors ça se voit surtout dans la suite du texte, mais on voit très clairement que là, ici, c'est une des situations où la réaction de Desgrieux est le plus clairement quand même ridiculisée. Notamment à la fin, il y a Lescaut qui vient lui rendre visite et lui dit « Bourreau, où est Manon ? Qu'en as-tu fait ?» Ce mouvement l'effraya, il me répondit que si c'était ainsi que je le recevais, lorsqu'il venait de me rendre compte du service le plus considérable qu'il eût pu me rendre, il allait se retirer. Il ne remettrait jamais le pied chez moi. Donc il dit, quand même, je l'ai prostituée, maintenant tu devrais me remercier, ça va nous rapporter de l'argent. Et où là, on voit complètement se fracasser l'illusion lyrique de Desgrieux, pour reprendre un terme de Jean Sgarre, et la réalité qui apparaît vraiment là, dans la lettre de Manon.
Peut-être c'est un moment où on peut parler aussi d'argent, puisqu'on a dit que ça régissait beaucoup des choses à la fois dans l'époque, mais aussi dans l'économie, j'utilise le mot à dessein, un narratif. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce trait-là, Marc-Stéphane ?
Ici, très clairement, dans cette lettre, en effet, ce dont il est question, c'est de gagner de l'argent. Mmh. Et Desgrieux, plus tard dans le roman, va dire qu'il n'a pas connu de jeune femme qui ait moins aimé l'argent qu'elle. C'est-à-dire qu'il l'excuse en disant que ce n'est pas l'argent qu'elle cherche, mais ce sont les plaisirs. C'est un mode de vie, et pour vivre justement cette vie dont elle rêve...
Il en faut un peu.
Il en faut un peu. Et donc, c'est ainsi que Desgrieux voit qu'elle, peut-être, qu'on peut la dédouaner. De cette recherche, ce n'est pas vraiment l'argent, mais un mode de vie, et il a envie de lui offrir cela. Et ce qui est intéressant aussi dans cette lettre, c'est de voir Manon qui peut-être joue aussi un petit peu à l'amante lyrique, et il y a peut-être là encore une mise en accusation du lyrisme, parce qu'elle semble reprendre certains codes lyriques, comme pour plaire à Desgrieux, que tu es l'idole de mon cœur.
Sois assurée que je t'aime, voilà. Dans un premier temps.
Et à côté de cela, des formules qui sont d'un prosaïsme, une sotte vertu que la fidélité. Ce rapport à la prostitution, on va le voir plus tard aussi, puisqu'elle va envoyer un autre billet à Desgrieux un peu plus tard dans le roman, billet qui ne sera pas reproduit cette fois-là, mais qui sera, on va dire, résumé par le narrateur. Et elle l'envoie en fait à Desgrieux, une prostituée, pour le consoler de son absence. Elle ne peut pas venir au rendez-vous, donc il résume ainsi. Elle avait trouvé le moyen de me procurer une des plus jolies filles de Paris, qui serait la porteuse de son billet signé votre amante fidèle Manon Lescaut. Et l'utilisation même...
Elle est marrante quand même.
De signer votre amante fidèle, alors qu'elle disait cette sotte vertu que la fidélité, je pense que sur la notion de fidélité, il y a un désaccord en fait. La fidélité des corps n'est pas la fidélité des cœurs. Pour Manon, ce qui rend possible aussi, justement, la question de la prostitution et la question, en effet, de l'argent. Argent auquel elle semble renoncer à la fin du roman, quand elle se trouve au Nouvelle-Orléans.
Qu'elle a été déportée. Donc
elle veut se défaire de tous les biens matériels. Et Desgrieux, voilà une jeune femme en route presque vers la sainteté.
Vers
son rachat, en tout cas, c'est comme cela qu'il envisagera l'issue finale.
On va écouter la voix d'Audrey, auditrice du Book Club. Elle a lu, et il me semble qu'elle enseigne même Manon Lescaut à ses élèves, et elle vous pose une question sur la réception critique.
Bonjour le Book Club. J'ai découvert Manon Lescaut au lycée. C'était il y a fort longtemps, quand j'étais moi-même élève en première. Et je me souviens en avoir gardé un très bon souvenir de lecture. Parce que j'ai adoré l'intrigue, je l'ai dévorée, mais en même temps j'ai détesté le personnage de Desgrieux tout au long de la lecture, qui m'a profondément agacée à cause de son aveuglement et de sa naïveté. J'ai pu retrouver chez mes élèves des réactions similaires quant au personnage de Desgrieux, et beaucoup d'interrogations sur le personnage de Manon, qui reste extrêmement mystérieuse. Je voudrais profiter de la présence de vos invités pour leur demander comment a évolué la perception du personnage de Manon ces dernières années dans la critique littéraire. Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup, Audrey, pour ce témoignage de lecture et d'enseignement. Audrey Follot, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Évolution de la réception critique, mais aussi du commentaire. Vous dites combien même, au-delà de la figure de Manon, le roman, pendant tout un temps, n'a pas été relu, n'a pas été commenté. Ça, c'était un vieux chef-d'œuvre. Il était là. Peut-être qu'il y a plus d'outils critiques à notre disposition et sur le personnage de Manon Lescaut en tant que tel.
Oui, alors j'aimerais revenir aussi sur le fait que l'impression de lecture donnée par mon homonyme est tout à fait intéressante parce qu'elle dit « j'ai détesté des Grieux et mes élèves aussi » et en fait elle a raison. Ça c'est un des grands travaux de Prévost. On le sait parce que quand on compare tous ces romans, tous ces narrateurs, héros sont d'une façon ou d'une autre inquiétants et avec vraiment ce développement d'un narrateur non fiable, donc c'est vraiment fait exprès. Et effectivement, ça problématise considérablement la figure de Manon, parce que ce qui apparaît de Manon dans le récit des Grieux, c'est ce qu'il laisse filtrer, c'est ce qu'il laisse passer, c'est ce qu'il choisit de dire d'elle. Donc dans la tradition critique, en fait, il y a un peu eu, après les contemporains de Prévost dont j'ai déjà parlé, tout au long du 19e siècle, on a vraiment aussi relu Manon Lescaut, qui était un chef-d'œuvre, voilà, sous un angle plus moral, où l'interprétation dominante, c'était un peu celle de la rédemption de la femme pécheresse.
Voilà ce que disait Marc Stéphan, cette trajectoire-là, quoi.
Exactement, c'est ce qu'on va voir complètement dans l'opéra de Massenet, voilà. Et en fait, à la fin du XXe siècle, quand il y a eu tout ce moment pour reconstituer les œuvres complètes de Prévost, etc., il y a par exemple un chercheur qui s'appelle René Desmaurice qui a publié un petit ouvrage au titre fascinant, Le silence de Manon, où justement il montre, lui, sa thèse, c'est que vraiment des Grieux réduit Manon au silence, parce que justement, il veut pas trop qu'elle parle, parce que quand elle parle, elle dit
trop de choses.
Elle dit trop de choses, puis elle les dit pas de la façon dont il voudrait qu'elle les dise. Et lui, sa thèse, c'est qu'il a aussi voulu s'en débarrasser un petit peu dans le désert, voilà, pour pouvoir revenir chez sa famille.
Mais alors, quelle lecture de la passion amoureuse dans par Desmaurice? C'est-à-dire que ça devient quoi? Juste un épisode d'écart?
Non, moi je crois qu'on peut apporter quelque chose aussi en disant, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans mon livre, que la trajectoire de Manon Lescaut et celle de Desgrieux, elles sont très différentes, parce que Desgrieux c'est quelqu'un qui n'apprend pas grand-chose, voilà, qui reste enfermé dans une forme d'égocentrisme, qui est aussi un égocentrisme narratif, et au contraire, il y a quand même plein de petits indices, mais il faut les chercher, qui nous laissent deviner la trajectoire de Manon, deux filles du peuple qui veut échapper au couvent et qui trouve que c'est une bonne idée de partir avec le premier aristocrate venu, jusqu'à, comme l'a dit Marc Stéphan tout à l'heure, cette grande courtisane qui distribue les amantes et qui va jusqu'au Nouvelle-Orléans. Il y a cette scène sur le bateau où elle lui dit voilà que maintenant elle a compris ce que c'était l'amour, et en fait le tragique c'est que lui, il ne comprend jamais ce que c'est l'amour. Il en parle, mais c'est elle qui le comprend. Et c'est aussi dans vraiment le heurt entre ces deux trajectoires amoureuses qu'il y a le tragique de l'œuvre.
On va aller vers la scène de la mort, mais un petit mot, Marc-Stéphane.
Oui, j'ajouterais que Desgrieux, c'est un personnage qui est dépourvu d'empathie. Et on le voit, par exemple, lorsqu'il va tuer par accident un garde en sortant de la prison à Saint-Lazare. Ce n'est pas, comment dire, un acte qui va le hanter, qu'il va questionner par la suite. Il en fait très vite abstraction. Il est centré, en effet, comme André le disait, uniquement sur sa petite personne.
Mais
c'est
en
ce
même
qui
temps,
le rend assez désagréable,
s'il
bien souvent.
S'il était parfaitement insensible, cet homme-là, il n'aurait pas pu succomber au regard de Manon Lescaut dans la première scène. C'est-à-dire que c'est quand même un petit peu l'écueil dont vous dites qu'il faut se méfier, Audrey Follot, de faire juste de cet homme-là un homme froid, calculateur, pas empathique, qui va faire une boucle sur lui-même pour finalement prendre la place de son père à la fin du roman.
Il est peut-être amoureux de l'amour avant tout.
Oui, c'est ça. On le voit dans le seul petit bout de portrait qu'il nous donne de Manon. Alors Manon, on ne sait pas du tout comment elle est, mais il nous dit c'était le visage de l'amour même. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que Desgrieux, en fait, il est amoureux de l'amour, alors que Manon, elle tombe amoureuse de Desgrieux.
Progressivement.
Donc, voilà, progressivement.
On a le temps pour la scène de la mort? On a le temps. Allez, on...
Je demeurai plus de 24 heures, la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère Manon. Mon dessein était d'y mourir, mais je fis réflexion, au commencement du second jour, que son corps serait exposé après mon trépas à devenir la pâture des bêtes sauvages. Je formais la résolution de l'enterrer et d'attendre la mort sur sa fosse. J'étais déjà si proche de ma fin, par l'affaiblissement que le jeûne et la douleur m'avaient causé, que j'eus besoin de quantité d'efforts pour me tenir debout. Je fus obligée de recourir aux liqueurs que j'avais apportées. Elles me rendirent autant de force qu'il en fallait pour le triste office que j'allais exécuter. Il ne m'était pas difficile d'ouvrir la terre dans le lieu où je me trouvais. C'était une campagne couverte de sable. Je rompis mon épée pour m'en servir à creuser, mais j'en tirai moins de secours que de mes mains. J'ouvris une large fosse. J'y plaçai l'idole de mon cœur, après avoir pris soin de l'envelopper de tous mes habits pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis dans cet état qu'après l'avoir embrassée 1000 fois, avec toute l'ardeur du plus parfait amour. Je m'assis encore près d'elle. Je la considérai longtemps. Je ne pouvais me résoudre à fermer la fosse. Enfin, mes forces recommençant à s'affaiblir, et craignant d'en manquer tout à fait avant la fin de mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu'elle avait porté de plus parfait et de plus aimable. Je me couchai ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux, avec le dessein de ne les ouvrir jamais, j'invoquai le secours du ciel, et j'attendis la mort avec impatience.
Ce dernier extrait de Manon Lescaut de Prévost qu'on va avoir à peine le temps de commenter, Marc Stéphan et Audrey Follot, est-ce qu'on peut voir dans cette scène de la mort de Manon presque une sorte de description de l'objet littéraire comme un tombeau, c'est-à-dire qu'il met l'idole parfaite sous la terre, il referme la fosse, ou est-ce que c'est trop vite commenter l'extrait ?
Non, c'est tout à fait juste. Alors, c'est une strate de lecture métalittéraire. Il y en a d'autres. C'est quand même une grande scène tragique. Vraiment, elle a tous les témoignages de lecteurs d'époque. C'est je pleure. Et c'est tout à fait légitime. Hein. C'est vraiment une grande scène tragique. Tragique parce qu'effectivement, la femme aimée meurt. Tragique parce que la traversée dans le désert, elle ouvre sur nulle part. En fait, il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas d'issue possible. C'est ça aussi qui donne cette impression de fatalité, de tragique. Mais comme vous l'avez dit, c'est une forme de métaphorisation de la tombe. Prévost comparait beaucoup la mémoire à un labyrinthe. Voilà, il y a un chercheur qui s'appelle Jean Sgar qui a écrit sur les labyrinthes de la mémoire chez Prévost, où effectivement, on sait que Prévost a été fasciné par les pyramides avec la crypte au milieu. Et Manon, c'est aussi ce souvenir de la femme aimée, comme vous le disiez, qui va nourrir l'écriture.
Le book club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, dans le Book Club, on vous retrouve, Nicole Vulser, pour parler un peu économie dans le monde des livres. Salut Nicole.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, le livre de poche, que vous imaginez comme une révolution et un enjeu démocratique.
L'engouement pour le livre de poche ne se dément guère. Il s'en est vendu, selon les dernières statistiques disponibles du Syndicat national de l'édition, 114 millions d'exemplaires en 2023, ce qui représente un peu plus d'un livre sur quatre vendu dans l'Hexagone. Comme leur prix est moins élevé que celui des grands formats, ce résultat ne correspond en chiffre d'affaires qu'à seulement 15% du marché de l'édition. Selon l'Institut GFK, le marché du poche, assez cyclique, a baissé de 2% en 2024. Mais si l'on regarde de plus près, la baisse des ventes de mangas masque en fait une belle dynamique des autres genres, et notamment de la littérature générale qui reste de très loin la poule aux œufs d'or du poche, puisqu'elle représente un exemplaire sur deux vendu à ce format.
Est-ce que vous voulez bien nous rappeler ça, parce qu'on ne sait pas tout à fait, qu'est-ce qui pousse un éditeur, qu'est-ce qui décide un éditeur à sortir un livre en format poche ?
Le choix de publier un livre en format poche, donc de lui donner une seconde vie pour qu'il puisse toucher un public plus large, est généralement décidé en amont par l'éditeur. Au moment où il signe un nouveau contrat avec l'auteur pour publier son livre en grand format, l'éditeur attend généralement 18 mois avant de sortir un poche pour avoir le temps d'imposer d'abord le livre en grand format vendu plus cher, le plus longtemps possible en librairie. S'il s'agit d'un primo-romancier dont les ventes risquent d'être assez faibles, alors là, Marie, pas sûr qu'il soit en poche. Même si la directrice littéraire de J'ai lu assure prendre souvent des risques, quitte à ne pas vendre beaucoup, mais à avoir des auteurs intéressants dans son catalogue de livres de poche. Aujourd'hui, tous les éditeurs, ou presque, ont créé leur propre filiale de livres de petit format, que ce soit Le Livre de Poche, une filiale commune d'Hachette et Albin Michel, Folio, qui appartient à la maison mère de Gallimard, Point, une collection dans le giron de médias participation, Pocket et 10-18 dans celui d'Editis, Babel chapeauté par Actes Sud, ou encore J'ai lu chez Flammarion, pour n'en citer que quelques-unes.
Alors, j'ai prononcé le mot révolution, en quoi est-ce que Le Livre de Poche en est une ?
D'abord, c'est une révolution industrielle. Le livre de poche existait déjà depuis le XVIIe siècle et s'est développé doucement en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Le tournant majeur s'est effectué au moment où les éditions de livres de poche ont été lancées en 1953 par Henri Philippe Aki, alors secrétaire général d'Hachette. La technologie des nouvelles rotatives a permis de réduire de 40% les coûts de fabrication. Les tirages démarraient à 60 000 exemplaires et les couvertures très colorées étaient pensées pour attirer le regard. Mais c'est aussi une révolution dans la distribution. Ces petits livres ont été commercialisés dans les kiosques à journaux et dans les gares. Les libraires traditionnels s'en méfiaient d'abord en les présentant dans des tourniquets à l'entrée de leur magasin. Si Henri Philippe Aki a réussi à imposer la collection Le Livre de Poche, c'est parce qu'il a eu l'excellente idée d'y associer ses meilleurs amis éditeurs, Bernard Grasset, Gaston Gallimard et les dirigeants d'Albin Michel, Stock et Calman Lévy. Les détenteurs de ces grands fonds ont tenté l'aventure sans hésiter, puisqu'Hachette assumait tous les risques financiers pour vendre alors ses ouvrages 2 francs, à peine plus que le prix d'un quotidien. Aujourd'hui, la collection Livre de Poche, le premier éditeur de ce format en France, a vendu plus d'un milliard de livres depuis 1953. Un milliard d'exemplaires, de quoi faire des envieux et des émules. Mais certains écrivains comme Julien Gracq ont toujours refusé d'être publiés en poche, là où par exemple Jean Giono y voyait, je cite, « le plus puissant instrument de culture de la civilisation moderne ».
On en oublierait les querelles des intellectuels à propos du livre de poche dans les années 60, Nicole.
Oui, c'était particulièrement violent au moment où le poche s'est ouvert aux essais, aux sciences humaines et aux nouveaux romans. Le théoricien de l'art Hubert Damisch menait la fronde en affirmant dans la revue Mercure de France en novembre 1964, je cite, il s'agit d'une entreprise mystificatrice puisqu'elle revient à placer entre toutes les mains les substituts symboliques de privilèges éducatifs et culturels auxquels la grande masse ne participe pas pour autant. Ce à quoi l'historien Robert Mandrou lui a répondu dans Les Temps modernes en avril 1965, je cite encore, pour cette seule raison, le livre de poche est un bienfait. Pour avoir mis en circulation au prix d'un paquet de cigarettes 60 000 exemplaires de Triste Tropique. Comme Claude Lévi-Strauss, on ne saurait trop lui donner raison. Grâce à son petit prix qui oscille entre 8 et 9 euros, le livre de poche constitue aujourd'hui un enjeu de démocratie. Il permet de lutter contre la baisse inexorable du temps de lecture face à l'impitoyable concurrence des écrans.
Et oui, merci beaucoup Nicole Vulser, on peut vous réécouter. La chronique s'appelle « Économie du livre » et c'est sur franceculture.fr. À la semaine prochaine. On se quitte donc avec un extrait de l'opéra de Manon Lescaut par Massenet pour vous remercier l'un et l'autre, Marc, Stéphane et Audrey Follot, d'avoir été avec nous pour un début de révision quand même. Bon, on a dit plein de choses, j'espère qu'on a donné plein d'éléments aux élèves qui vont passer l'épreuve du bac français autour de Manon Lescaut et du texte de Prévost. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous avez signé le dossier pédagogique Marc, Stéphane chez Classico Lycée Belin Gallimard et puis vous avez aussi rédigé des notes pour l'édition de poche chez Flammarion et ce petit essai Manon Lescaut de Prévost ou Le Rivage Désiré aux éditions Champion Commentaire. Merci beaucoup à tous les deux.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots journal intime, ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
mercredi 29 juillet. Première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.